Je vais donner les 6 points, mais c'est pas très, il n'y a pas grand chose. Je vais résumer. Bonsoir. Donc, résumé des épisodes précédents. Donc, on a essayé de situer Paul comme homme dans sa famille, de pharisien zélé, juif hellénistique, 100% juif, mais 100% de la culture grecque, donc de Tarse, qui aurait pu faire une excellente carrière dans l'administration romaine comme Tibère Julius Alexandre à Alexandrie. Une formation de pharisien approfondie dans les écritures et dans les méthodes d'interprétation que les scribes juifs développaient, un peu en imitation et en échange avec les grammairiens grecs d'Alexandrie. Ayant bénéficié d'une formation athlétique grecque, d'une formation manuelle sans doute par sa famille dans le travail du tissu, c'est totalement banal puisque Tarse était la capitale du textile de l'Empire romain, donc c'est complètement logique. Et ça lui a servi après dans sa vie d'apôtre. Donc il avait une certaine habileté manuelle. Donc citoyen romain, bon, j'ai essayé de vous dire, présenter le dossier. Bon, pas de raison majeure de mettre en cause cet élément que nous donne Luc, dont lui-même ne parle pas, et qui a pu, à certains moments, l'aider dans sa mission d'apôtre, en échappant à certaines arrestations, ou en étant libéré plus vite, ou voilà, en ayant un statut un peu privilégié. Donc, de la tribu de Benjamin, selon ses parents, pharisiens, donc appartenant à l'élite juive et à l'élite sociale tout court de l'Empire. Top 1%. Voilà pour l'homme. Dans la deuxième séance, on a essayé d'approfondir ce dilemme sur lequel le théologien Joseph Ratzinger revient dans son volume sur Jésus II, c'est-à-dire que le paradoxe, que celui que les chrétiens appellent maintenant l'apôtre, l'apôtre par excellence, celui qui se présente comme apôtre au début de ses lettres, a été pendant une bonne partie de sa vie critiqué par beaucoup, nié dans son statut d'apôtre, et que Luc lui-même, en 95, dans le livre des Actes, eh bien, semble donner une définition, en tout cas de témoin de la résurrection. Vous vous souvenez, avec le discours de Pierre, à tous ceux qui ont été avec nous depuis le baptême de Jean, qui semblent exclure Paul de la liste possible des témoins de la résurrection, alors même que Paul, dans le texte célèbre de 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5, Paul se met en série avec les 12, Képhas, 500 frères, Jacques et les apôtres. Et enfin, il est apparu à l'avorton que je suis. Donc, comment penser un apostolat un apôtre qui est constitué apôtre par une apparition, une vision. Quant aux visions et révélations, dit Paul au début de Corinthiens 10, quant aux visions et révélations, je connais un homme. Bon. Disons, dans ses lettres authentiques, il dit, 1 Corinthiens 9, « N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Au début de 1 Corinthiens 9, il y a une espèce de grande protestation. « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas, vous, mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous, au moins, je le suis. Car c'est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau de mon apostolat. » N'y a-t-il là que propos humain ? Bon, donc une affirmation très forte de son statut d'apôtre, effectivement, fondée non pas sur une transmission par les douze, mais d'abord par cet appel unique reçu sur la route de Damas. Pas de raison de supposer que Luc invente Damas. Bon, au début de Galates, Paul nous dit pas l'endroit. Ben, celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce à daigner révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations, aussitôt, sans monter à Jérusalem, sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem, trouver les apôtres, mes prédécesseurs, j'allais en Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc, je suppose que ça a dû se passer, effectivement, c'est plausible que ce soit sur la route de Damas. Donc, on avait essayé de dire des choses sur cette expérience fondamentale de la théologie, de la vie de Paul et de sa théologie. Et le théologien coréen, protestant luthérien Si-Yoon Kim a écrit un livre important en 77. Kim, c'est comme Kim. Et Si-Yoon, en général, c'est S-E-E-Y-O-O-N, je crois. Non, S-E-Y-O-O-N. Kim Si-Yoon. A essayé de montrer, mais avec des arguments valables assez forts, que l'expérience de Damas informe toute la théologie de Paul. Même si on peut supposer, d'un point de vue logique, psychologique et humain, qu'il lui a fallu des années pour mettre en mots cette expérience, pour la décliner, si je puis dire, théologiquement. Donc c'est l'événement qui fait basculer sa vie de pharisien se formant à Jérusalem vers un apôtre itinérant, vivant assez pauvrement, assez modestement, et se faisant tout à tous pour leur faire rencontrer le Christ. Et quelqu'un qui a vécu des expériences à la fois spirituelles et charismatiques fortes. Voilà le point où nous en étions, je pense. Et le troisième point que j'ai annoncé, c'est Paul comme pasteur. Avec un Paul qui déploie des métaphores extrêmement variées pour parler de sa vie et de sa mission, où il utilise à peu près toute la gamme des relations affectives importantes au plan humain. La relation au père, la relation à la mère, la relation à l'ami, la relation à l'amant, la relation l'entremetteur, enfin il va prendre beaucoup d'images, beaucoup de métaphores. Donc, un des objectifs, c'est justement de nous aider à ne pas voir Paul d'abord comme un théologien, un professeur, un théoricien. C'est passer à côté de l'essentiel de Paul, qui était d'être un apôtre, un missionnaire itinérant, le plus souvent en voyage ou en prison, soumis à des épreuves affectives et physiques extrêmement fortes, et qui, malgré tout, arrivait à tisser avec ses communautés, avec ses fils spirituels, des sentiments extrêmement forts, et entretenant tout un réseau de correspondants, de collaborateurs, de messagers. Marie-Françoise Basselès insiste beaucoup sur le réseau des églises pauliniennes. Alors aujourd'hui, on dirait que c'est un champion du networking. C'est un homme du réseau, Paul. Il est quasiment jamais seul. Il est toujours accompagné de junior partners, on pourrait dire, de jeunes, comme Tite, comme Timothée, comme Sostène, de gens qui en général, sont devenus croyants grâce à lui, qui se sont mis, non pas à son service, mais enfin qui se sont mis comme collaborateurs, synergoi, collaborateurs de la mission. Ces gens-là ont été évidemment très importants pour la transmission de son œuvre, de son message et de sa mémoire. C'est peut-être pour ça que petit à petit, Paul, si je puis dire, est entré dans l'église principale ou a été reçu dans le Nouveau Testament d'une telle manière. C'est parce qu'il y a tout un courant de gens qui lui étaient liés, qui a continué à porter sa mémoire, à la défendre, et Et ben, c'est eux qui ont gagné à la fin quand même. Au point que justement, Paul nous semble être l'apôtre des premières décennies chrétiennes, alors que certainement de son vivant, il était marginalisé, minoritaire et pas forcément reconnu par la majorité des chrétiens de son temps. Donc il y a eu un renversement. Et ce renversement, il n'est compréhensible que par ce réseau, que par ces gens qui se seraient fait couper en morceaux pour lui. Alors je crois vous avoir parlé de Priscille et Aquila. Hein, je vous avais mentionné ce petit verset de Romains 16 qu'on ne connaît pas assez. Hein, voilà. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête. Bon. Donc, sans doute lors de cette épreuve à Éphèse où Paul dit qu'il s'est vu mort, quoi. Enfin, où il aurait mieux valu être mort. Donc je vous avais un peu parlé des prisons romaines, enfin, des prisons de l'époque, qui n'est pas vraiment un endroit où on voudrait passer la nuit, quoi. Ou même quelques mois. C'est au début. Hein. Nous ne voulons pas, frères, que vous l'ignoriez. Hein, 2 Corinthiens 1, 8 et suivant. Hein, la tribulation qui nous est survenue en Asie nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. Donc, vous savez, c'est lui qui dit ailleurs que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Ben, là, c'était au-delà de ses forces. Du coup, ben, quand c'est au-delà de nos forces, ben, on meurt. Nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort. Bon, voilà. Mais c'est Dieu qui nous a délivrés d'une telle mort et nous en délivrera. En lui, nous avons cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Vous-même, nous aiderez par la prière. Afin que ce bienfait, qu'un grand nombre de personnes nous auront obtenu, soit pour un grand nombre un motif d'action de grâce à notre sujet. Il a toute cette idée, Paul, des chaînes de prière, du fait que tout le monde va prier pour une cause, qu'on prie pour des gens, pour des visages, pour des causes, et que tout ça s'accumule et crée des lignes de combat supplémentaires, si l'on en croit la fin de Romains 15, où Paul, bon, j'en reparlerai dans le dernier chapitre, quand il monte à Jérusalem. Paul dit, hein, « Je vous le demande, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit-Saint, combattez avec moi dans les prières que vous adressez à Dieu pour moi. » Donc, voilà, il y a le combat de la prière. Alors, pour entrer dans la relation que Paul entretenait avec ses communautés, je propose un petit voyage parmi les métaphores pauliniennes de l'apostolat. Les métaphores pauliniennes de l'apostolat. C'est-à-dire la façon métaphorique dont il parle de la relation qu'il a avec ses communautés, qui est une relation assez exclusive quand même. Non pas qu'il ne les veut pas en communion avec les autres, mais voilà, je me suis fait un point d'honneur de n'annoncer l'évangile que là où le nom de Christ n'avait pas encore été prononcé, pour ne pas bâtir sur les fondations qu'un autre aurait posées, hein, Romains 15-20. Bon, enfin, ça veut dire que là où il a fondé l'Église, comme il dira ailleurs, vous n'avez pas plusieurs pères, quoi. Hein, vous n'avez qu'un apôtre, qu'un père, c'est moi. Bon. Alors, aux Galates, en Galates 4, donc un passage qui a été longtemps un peu négligé, Galates 4, 12, 20, ça c'est ce que j'avais vu dans ma thèse, le père Roland Méné à la Grégorienne a fait un très bel article sur ce passage, c'est que dans les chapitres 3 et 4 de la lettre aux Galates, qui sont les chapitres, si vous voulez, densément théologiques, avec tous les raisonnements sur... le baptême, la loi n'a pas annulé la promesse, alors Abraham, mais alors pourquoi la loi? Il n'y a plus ni juif ni grec, je vous le dis, etc. Bon, haute théologie, Paul argumente en d'autres termes. Et puis tout d'un coup, il y a un passage où domine le genre pathétique. Je crois que je vous avais parlé des trois pianos, non? Trois claviers. Donc chez les Grecs, vous avez trois claviers. Logos, pathos, ethos, c'est-à-dire qu'un orateur, soit il s'adresse d'abord à l'intelligence de ses auditeurs, et il argumente selon le logos, c'est-à-dire selon la logique, il argumente. Donc, voici, etc., premièrement, il fait des syllogismes. Donc, il ne cherche pas à mettre son jeu dans l'histoire, il dit, voilà, Socrate, machin, etc. Bon, donc, conclusion. Un deuxième mode d'argumentation joue sur le pathos. Le pathos, donc, sur la relation affective qui vous lie à votre auditoire. Donc, c'est tout d'un coup, le président ukrainien s'adresse à ses Berkout en disant « Mes chers enfants, vous donnez votre sang pour moi, je serai prêt à donner mon sang pour vous, etc. » Bon, là, vous êtes dans le pathos absolu. Hein, d'accord. Donc, vous jouez sur la relation affective et vous faites appel à l'argument affectif. On va voir comment Paul le fait ici. Et puis, la troisième dimension, l'éthos, hein, E-T-H-O-S, l'éthos, qui va donner éthique, met en valeur la crédibilité morale de celui qui parle. C'est-à-dire que les propos logiques et argumentés qu'il tient sont en harmonie avec sa vie. Alors ça, Paul va être obligé plusieurs fois de le faire dans de longs chapitres, c'est-à-dire de défendre sa crédibilité, sa cohérence, ce qu'il a fait. On dit que c'est pas vrai, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, hein, hein. Donc mon propos est gagé sur l'autorité de celui qui parle, autorité reconnue. Donc un bon orateur antique, mais je dirais aussi un bon orateur moderne, joue sur les trois claviers. Simplement, les coefficients bougent. Vous avez des sections à dominante logique, des sections à dominante pathétique. Mais, et c'est très frappant chez Paul, quand vous êtes apparemment dans un style purement logique, vous êtes quand même, vous utilisez des arguments rhétoriques des deux autres genres, et quand vous êtes, semble-t-il, extrêmement pathétique, vous continuez en fait à argumenter. Donc on parle de dominante, on ne peut pas uniquement cantonner une intervention à l'un des trois genres, ils sont toujours mêlés. Donc l'orateur grec va chercher voilà, mettons, Démosthène commence un discours à Athènes en disant « Athéniens, à l'âge que j'ai atteint, et vous me connaissez bien, depuis 30 ans que je défends cette ville, la position que j'ai prise vis-à-vis des Perses, lors de la crise de 479, lors de la crise de 475, a toujours été la même. » Bon, là, il établit sa crédibilité. Les amis, je n'ai pas changé. La position que dont je vais essayer de vous convaincre, l'argumentaire que je vais faire, il y a la cohérence de mon parcours jusque-là qui montre que je n'ai pas changé. C'est un peu ce que fait Paul au début de Galates, en disant, voilà, je suis monté, voilà ce qui s'est passé, moi je n'ai pas changé. Alors si des gens disent autrement, moi je jure que je ne mens pas, alors il y a le petit sous-débat qui m'a toujours intéressé, Paul n'est pas au courant que Jésus a dit que votre oui soit non, oui, et que votre non soit non, et qu'il ne faut pas jurer et pas faire de serment, parce que régulièrement Paul il prend un peu solennellement Dieu à témoin en disant « Je jure devant Dieu que je ne mens pas. » Bon. Donc, soit ce n'est pas la force de l'habitude, soit il ne connaissait pas cette parole de Jésus. Enfin, bref. Donc, vraiment, voilà, il dit « Moi, je suis cohérent. » Voilà, donc l'orateur, selon la nature de la relation qu'il a avec ses auditeurs, par exemple, des gens que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas jouer sur le pathos, a priori, parce que vous n'avez pas d'argument en commun, ils ne vous connaissent pas, il n'y a pas d'histoire entre vous, vous allez être sur un registre logique. Donc, je vais prendre par exemple à la fin du raisonnement précédent, du début du 4. Hein. Bon. Donc, jadis, dans votre ignorance de Dieu, vous avez été esclaves de Dieu, qui, de fait, par nature, n'en sont pas. Ça, c'est tout le thème un peu Galates 4, 8, du problème des démons, si vous voulez, du problème des faux dieux. Alors, ils n'existent pas, petit A, petit B, ils créent beaucoup de problèmes. Alors, il y a la tension entre petit A et petit B. Hein. Quelque part, les idolâtres font exister leurs idoles d'une certaine manière en leur donnant de la valeur. Bon, vous étiez esclaves de Dieu, mais enfin, qui, par nature, n'en sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt, correction, qu'il vous a connu, je crois que j'avais déjà parlé de cette phrase comme étant clé au plan de la conception de la foi de Paul. Dans la foi, il y a le mouvement actif de confession, de réponse à l'appel de Dieu, mais il n'est possible, ce mouvement de réponse, que par la reconnaissance d'un don premier, d'une initiative de Dieu. Donc vous avez été connu par Dieu, passif. Voilà, donc le croyant exprime le mouvement de gratitude de sa foi en disant à Dieu « Tu m'as donné la foi » et Dieu lui dit « Mais tu as eu la bonne idée et la bonne intelligence de répondre. » C'est à l'autre de valoriser notre réponse. Nous, nous reconnaissons d'abord que le don vient de Dieu. Comment retourner encore à ces éléments sans force ni valeur auxquels, à nouveau, comme autrefois, vous voulez vous asservir? Alors, ces stoikeia tou kosmou, ces éléments du monde, il y a tout un débat sur ce que c'est. Bon, ça ne peut pas être directement la loi, parce que ces pauvres Galates étaient païens, donc... Observez des jours, des mois, des saisons, des années, vous me faites vraiment craindre de m'être inutilement fatigué pour vous. Argument personnel. Alors, section 12.20. Devenez semblable à moi, puisque je me suis fait semblable à vous, frère. Je vous en supplie. Alors, le mot frère, il est réparti à des endroits stratégiques dans les lettres de Paul. Évidemment, il rétablit une communication en réinsistant sur la foi commune qui les unit à ses destinataires. Alors, de ce point de vue-là, c'est très intéressant que dans les Actes des Apôtres, quand Paul parle à Antioche de Pisidie, par exemple, ou à Jérusalem, il continue à dire frère à des juifs non chrétiens. Il continue à dire frère, qui est le terme principal qui est utilisé à l'intérieur de la communauté chrétienne, frère et sœur. Bon. Vous ne m'avez nullement offensé. Bon, il dit, c'est pas une affaire personnelle. Je suis pas vexé. Parce que donc, les super apôtres qui sont arrivés en disant, Paul vous a transmis le christianisme 1.0, vous allez avoir maintenant la version complète du logiciel. Et voilà, donc il faut faire juste ceci, 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 cela pour la mise à jour. Circoncision, shabbat, alimentaire, etc. Donc, Paul, il dit, non mais bon... En fait, il est un peu vexé parce qu'il va le dire quand même à d'autres endroits. Mais enfin, il dit, non, mais c'est pas personnel l'affaire. Je trouve ça juste dommage. Bon. D'abord, c'est faux. Bon. Bon. Vous le savez, ce fut une maladie qui me donna l'occasion de vous évangéliser la première fois. Bon, maladie. Bon. Malgré l'épreuve que vous étiez ce corps infirme, vous n'avez marqué ni mépris ni dégoût. Alors, il y a évidemment des fleuves de littérature sur cette maladie, sur pourquoi il est arrivé là en Galatie. Je vous avais parlé de l'hypothèse de Sergius Paulus, le proconsul de Chypre, originaire d'Antioche de Pisidie et ayant des grandes propriétés en Galatie. Marie-Françoise Basselès nous parle longuement de cette famille. Alors, est-ce que c'est les blessures, si vous voulez, qu'il aurait reçues en étant lapidé à Antioche de Pisidie? Être lapidé, vous avez un peu des coups de pierre un peu partout, vous êtes effectivement couturé de cicatrices, pour peu que ces cicatrices s'infectent, c'est pas très ragoûtant, effectivement. Donc, il dit, je suis pas arrivé en très grande forme. Malgré cela, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, c'est-à-dire littéralement un messager de Dieu, comme le Christ Jésus, sous-entendu lui-même. Que sont donc devenues les félicitations que vous vous adressiez? Car je vous rends ce témoignage. S'il avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Alors ça, bon, je vais revenir, mais c'est un topos des romans de l'Antiquité, de la littérature antique, sur l'amitié. Bon, un ami, c'est quelqu'un qui est prêt à donner ses yeux pour vous. Je vais vous citer le texte. Vous voyez que là, c'est pas une argumentation rationnelle, il est écrit dans la loi que donc, selon les Écritures, machin, et Jésus a dit que, etc. Non, non. Paul est en train de raconter leur histoire humaine, affective avec ces gens-là. L'évangélisation, elle se produit dans un contexte humain. On a une relation humaine avec les gens qui nous ont annoncé la foi. Que ce soit grand-mère Germaine ou le curé Albert, je veux dire, ça passe par des gens. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Leur attachement pour vous n'est pas beau, n'est pas kalos. Leur, qui sont ces gens-là? C'est ce qu'il va appeler, voilà, Paul ne daigne pas leur donner un nom. C'est Tinès, c'est certains, c'est quelques-uns, ces gens-là. Ils veulent vous séparer de moi pour vous attacher à eux. Il est bien de s'attacher les autres pour le bien, pour toujours, et non pas seulement quand je suis près de vous, loin des yeux, loin du cœur, bon. Mes petits enfants, tekna, alors là, vous voyez, pathos à fond, Mes petits-enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Donc là, Paul, il se met dans une figure maternelle. Il est en train, c'est la maman qui est en train de les enfanter. Alors, lui, ils l'ont accueilli, les Galates l'ont accueilli comme un bébé malade, ils ont été maternels à son égard, et c'est lui maintenant qui est maternel de nouveau à leur égard. Verset 20, « Que ne suis-je donc près de vous en cet instant pour adapter ma langue, car je ne sais pas comment m'y prendre avec vous ?» Ça, c'est topos littéraire ultra classique. « J'aimerais être là, présent, pour vous dire les choses face à face. » Alors, l'image, l'empressement qu'on vous témoigne n'est pas de bonne aloi. Ils veulent seulement vous détacher de moi pour devenir eux-mêmes l'objet de votre empressement. Ben là, c'est l'image, la métaphore de l'amoureux fidèle. Voilà, il est parti en voyage, et pendant qu'il est parti en voyage, il y a l'infâme qui se met sous les fenêtres de la belle et qui commence à jouer de la mandoline, et elle ouvre la fenêtre. Et l'amoureux fidèle, mais ça va pas du tout. C'est pas parce que je suis pas là, loin des yeux, etc., qu'il faut commencer avec ces gens qui sont intéressés. Bon. Alors, la référence à l'arrachage des yeux, alors, évidemment, il y a des gens un peu rationalistes qui ont dit « Ah, mais si, il dit ça, ben, en fait, il avait une maladie aux yeux. » Voilà, il était malade aux yeux, et les Galates lui ont dit « Ben, on va te donner un œil. » Oui, mais ça marche pas comme ça. Bon. Alors, On a trouvé dans un roman de Lucien, l'auteur grec Lucien, qui s'appelle le Toxaris. Vous pouvez trouver ça facilement. Donc c'est un roman, les romans de l'Antiquité, vous avez beaucoup de naufrages, de captures, de pirates, etc. Bon, il faut lire les romans du 1er ou 2e siècle, vous avez ça dans la Pléiade. Donc là, bon, c'est une longue histoire, je résume, mais bref, un ami se présente sur une île déserte ou la péninsule de Crimée, où son ami a été capturé par des très méchants. Et les très méchants demandent beaucoup d'argent et il n'a pas. Que peut-il offrir? Et on lui demande, les pirates lui demandent ses yeux. Et il accepte, il donne ses yeux pour que son ami soit libéré. Donc c'était devenu un motif proverbial du summum de l'amitié. C'est-à-dire être donner ses yeux, être prêt à donner ses yeux, c'est vraiment un symbole de grande amitié. Donc l'amitié est donc le topos, voilà, le fait pour un amant de se retrouver devant la porte close de son aimé. Donc les adversaires de Paul sont à la porte des Galates. Voilà, ce thème se trouve très souvent chez les auteurs grecs, notamment le poète Ménandre. Alors Ménandre, dont on sait que Paul le connaît parce que Paul cite un vers de Ménandre dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 33. Hein, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Oui, c'est pas un summum d'originalité humaine. Bon. Mais ça montre comment Paul et Jésus n'hésitent pas à utiliser des proverbes de la sagesse commune de l'humanité. C'est un point très important. On en parlait hier avec le père Thomaset dans un atelier que nous faisions sur le sermon sur la montagne. On parlait de Jésus, c'est aussi la pointe de ce que dit John Mayer dans son livre sur le Jésus historique. Jésus est un prophète eschatologique qui emploie aussi le langage de la sagesse. Alors on peut parler de sagesse eschatologisée ou d'eschatologie sapientielle, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil et tu veux arracher la paille qui est dans l'œil de ton frère, bon, commence par arracher la paille. Un aveugle qui guide un autre aveugle, tous deux tomberont dans un trou, que l'homme qui veut construire une tour doit s'asseoir pour réfléchir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, ou un roi avec 10 000 hommes s'il peut attaquer l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000. Ben, je veux dire, Sun Tzu et Lao Tzu sont d'accord, et Confucius, enfin tout ça c'est de la bonne vieille sagesse humaine, vous voyez. Donc, la révélation n'a pas peur d'employer un langage des proverbes. Voilà. Donc, les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bon. Alors, le texte de Ménandre, dans son roman, dans son poème Thaïs, dit « Elle me cause du tort, elle clôt sa porte, elle ne cesse de demander des cadeaux, n'aimant personne, mais toujours le prétendant. » Bon, donc ça, c'est l'amoureux transi qui dit « Ça commence à bien faire. » Voilà. Donc, Paul ici, assez subtilement, ça se joue en deux versets, laisse entendre, c'est pour ça qu'il continue à argumenter, que ses adversaires judaïsants, ces fameux missionnaires qui viennent et qui se revendiquent de Jacques de Jérusalem, ils font semblant d'aimer les Galates, mais c'est pas pour leur bien, c'est pour leur propre intérêt, leur propre gloire, pour nuire à Paul. Ils n'ont pas véritablement le souci des Galates, ils sont pas désintéressés. Donc ils ont une relation manipulatrice et fausse. Hein, et s'ils font la cour aux Galates, c'est avec dès le départ l'intention de les trahir. Bref, ce sont des amoureux non sincères. Et Paul lui-même, évidemment, en revanche, est un amant sincère, désintéressé, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un voilà, qui n'est pas jaloux, qui ne cherche pas son intérêt, mais qui veut dire la vérité, et qui pense au bien de l'autre. À la fin de la lettre, il va revenir de nouveau sur cette question du motif intéressé, en accusant de nouveau ses adversaires, car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la loi. Ils veulent seulement que vous le soyez circoncis pour se vanter dans votre chair. Ils veulent en tirer gloire grâce à vous. Bon, donc, dans ce passage de, petit passage de Galates, Paul redit de manière affective, personnelle, pathétique, ce qu'il dit ailleurs de façon argumentative, logique dans sa lettre. Ces prédicateurs, ces super apôtres, veulent convaincre et séduire les Galates, mais leurs motifs sont faux. Ils n'ont pas un véritable amour pour les Galates. Leur apologie de la circoncision a pour motif leur propre orgueil et leur propre gloire. Ne vous laissez pas manipuler. Alors, pour les théologiens de la fin du XIXe siècle, ou parfois dans d'autres siècles, bon, cet argument paraîtrait un peu moins fort. On dit, bon, Paul, là, bon, un peu facile, il bidouille avec deux, trois topos de la culture locale pour... Mais enfin, humainement, il est quand même fort, cet argument. Paul, il dit aux Galates, mais enfin, les amis, on a une histoire ensemble. Moi, je suis parti de zéro, je suis arrivé, vous m'avez accueilli, vous étiez prêt à donner votre vie pour moi, voilà, je vous ai donné le Christ, vous m'avez accueilli, vous m'avez nourri, vous m'avez soigné, ça a duré des mois. Et là, il y a 3-4 barzingues qui arrivent en disant, non, on va vous expliquer le christianisme, et vous les écoutez. Ah, pas. Ils ont quel titre à votre écoute? D'où? Ce qui est bon, c'est de se voir témoigner un empressement bien intentionné, en tout temps, pas seulement quand j'étais présent parmi vous. Le véritable amour est fidèle, même à distance. Le premier attachement n'était pas beau, celui de Paul est beau. En français, on traduit en général « kalos » par « bon », ici. Mais vous savez que le « kalos » grec, « kalos kagatos », bon, « kalos » grec, « beau » et « bon », c'est l'idéal grec. Voilà donc la métaphore de l'ami, voire de l'amant. Alors, 2 Corinthiens 11, donc la longue histoire de Paul avec les Corinthiens. Ah, si vous pouviez supporter que je fasse un peu le fou. Mais bien sûr, vous me supportez. J'éprouve à votre égard une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Si le premier venu, en effet, proclame un autre Jésus que celui que nous avons proclamé, s'il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, un évangile différent de celui que vous avez accueilli, eh bien vous le supportez fort bien. J'estime pourtant ne le céder en rien à ces archi-apôtres. Si je ne suis qu'un profane pour la parole, pour la science, c'est autre chose. En tout, devant tous, nous vous l'avons montré. Bon. Alors, ici, Paul se compare à un châtraine, si vous connaissez la communauté juive, un marieur, un entremetteur, personnage clé de toutes les bonnes comédies yiddish polonaises du 19e. Alors, elle est bien, oui. Non, en fait, elle boite un peu. Alors, elle est bien, oui, mais en fait, elle est borgne. Oui, en fait, non. Mais elle est très, très bien. Elle est très, très bien. Bon. Donc, il y a plein de gags sur les entremetteurs. Bon. Donc, ils organisent les présentations entre les familles. Bon. Donc là, Paul, il dit, attendez, moi, j'ai présenté au Christ quelqu'un de sérieux. Hein. Moi, je pensais que vous étiez une femme bien. Et puis là, vous tournez la tête. Donc, la métaphore du marieur qui existait, évidemment, déjà à l'époque. Donc, il compare l'Église à une fiancée, c'est lui qui a fait l'introduction au Christ, et évidemment, ça lui donne une responsabilité et le droit d'éprouver de la jalousie. Bon. Alors, ça continue un peu plus loin. Alors, après, il y a un argument éthique, verset 7, 11, 7. Hein. Ou bien, est-ce que j'ai commis une faute en vous annonçant gratuitement l'Évangile de Dieu, m'abaissant moi-même pour vous élever vous? Parce que eux se font payer, donc. J'ai dépouillé d'autres églises, recevant d'elles un salaire pour vous servir. » Alors, bon, là, il se contredit un peu, parce qu'il dit ailleurs qu'il n'a pas reçu un salaire. Disons, vous savez que les Thessaloniciens et les Philippiens lui envoyaient de l'argent. Paul dit « Non, j'en avais pas besoin, mais merci quand même. Hein. » Donc, je voulais pas demander, mais j'accepte. Bon. Son point, c'est-à-dire qu'il ne met pas de conditions financières. Bon. Et quand, une fois chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne. Ce sont les frères de Macédoine qui ont pourvu à ce qui me manquait. De toutes les manières, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce titre de gloire ne me sera pas enlevé dans les régions de l'Achaïe, dans la province romaine de l'Achaïe, Péloponnèse. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Parce qu'il faudrait que j'accepte de l'argent pour vous prouver que je vous aime ? Non mais c'est quoi cette histoire ? J'ai travaillé gratuitement, j'en suis fier, j'en suis heureux, et ça deviendrait maintenant un motif pour me décrédibiliser. Ça fonde ma crédibilité apostolique. Et indirectement, il charge ses autres archi-apôtres. Quel est leur intérêt à eux ? Là, on est vraiment dans un argument éthique. C'est sa crédibilité éthique, c'est la crédibilité de l'orateur, avant de revenir au cœur du sujet qui dit « C'est moi qui suis cohérent, fidèle, désintéressé dans cette affaire. » Bon. Et ce que je fais, je le ferai encore, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en voudraient un, pour être trouvés nos pareils sur le point où ils se glorifient. Donc je continuerai à agir comme ça, à ne pas demander de salaire, pour ôter tout prétexte donc à ces autres-là, qui en voudraient un, bon, ils voudraient nous ressembler sur ce point, eh ben non. Alors après, par moment, alors les exégètes anglo-saxons appellent ça un outburst of anger. De temps en temps, Paul pique un coup de sang, s'énerve un peu, et les propos sont assez vigoureux. Car ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. D'ailleurs, à cela, rien d'étonnant, Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Rien donc de surprenant si ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. C'est assez fort et ça nous rappelle, donc, quand Luc fait parler Paul en acte 13, un fils du diable, ennemi de toute justice, quand Paul parle à Élimas, c'est assez crédible que Paul, par moment, peut avoir des expressions quand même assez fortes. On est quelque part ici dans une dimension éthique au inverse, c'est-à-dire qu'il décrédibilise ses adversaires. Dans la technique rhétorique, si vous voulez, judiciaire, qui est la naissance de la rhétorique antique, du procès, hein, vous devez défendre votre client. Hein. Alors, un des éléments de le défendre, c'est de défendre sa crédibilité. Vous faites venir des témoins de moralité. Et deuxième élément, vous passez à l'offensive et vous décrédibilisez les témoins de l'accusation. Donc, là, on attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, Paul s'écarte et le reconnaît de la règle fixée pour les missionnaires itinérants. Règle qui remonte peut-être à Jésus lui-même, en tout cas était visiblement reçue dans les premières communautés chrétiennes. Luc 10, hein, « Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. » Luc 10, 5, 7. Donc, voilà, Paul travaille de ses mains et refuse de... On peut continuer parce que c'est un passage intéressant. Bon, je le répète, qu'on ne me prenne pas pour un fou, ou bien alors acceptez-moi au moins comme tel, que je puisse à mon tour me glorifier un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme un fou, dans l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Bon, c'est pas chrétien de dire je suis le meilleur et j'en ai fait plus que tout le monde, si vous voulez. De se défendre sur ce qu'il a fait. Bon, mais enfin, puisqu'on m'attaque, puisqu'on dit que j'ai rien fait, que je suis un nul, que je suis pas apôtre, que ceci, que cela, il faut bien que je dise que c'est pas vrai. Bon. Donc c'est fou, je devrais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Bon. Puisque d'autres se glorifient selon la chair, je vais moi aussi me glorifier. Vous supportez bien volontiers les fous, vous qui êtes censés. Oui, vous supportez qu'on vous esclavagise, hein, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à votre honte, c'est à croire que nous nous sommes montrés faibles. Bon. Il faut vraiment faire les durs avec vous pour être respecté. Bon. Mais ce dont on se vante, c'est en fou que je parle. Je puis m'en prévaloir, moi aussi. Alors, donc là, on a à la fois un portrait de Paul et un portrait de ses faux apôtres. Bon, ils sont hébreux, moi aussi. Fils d'Israël, moi aussi. Descendants d'Abraham, moi aussi. Ministre de Christ, je vais dire une folie, moi plus qu'eux. Bien plus par les travaux, c'est-à-dire l'œuvre apostolique. Bien plus par les emprisonnements. Et infiniment plus par les coups. Ça, c'est un argument que Paul utilisera souvent. C'est un argument éthique pur. Dis-moi, mon ami Jacobos, là, t'as reçu combien de fois les 39 coups de pouet? Alors le gars baisse la tête, rougit, ben, je ne l'ai jamais reçu. Paul va dire, moi je l'ai reçu 5 fois. C'est la preuve par les coups. Et elle a du prix, elle a de la valeur. Parce qu'après, Paul, il va dire un moment, ils disent que ma prédication, c'est pour éviter la persécution. Quoi? Moi, éviter la persécution? C'est une plaisanterie. J'ai été persécuté plus que tout le monde. Donc on n'aille pas dénigrer mon christianisme, sous prétexte que ce serait un christianisme 1.0, laxiste, pour débutants, etc. Non, c'est un christianisme... C'est le vrai christianisme, rien que le christianisme, tout le christianisme. Souvent, j'ai été à la mort. Bon, ça, il faut le prendre quand même au sérieux, proche de la mort. Hein. Donc, 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. C'est-à-dire la peine pour blasphème, la peine pour offense grave, hein, que peut infliger un chef de synagogue. 3 fois, j'ai été battu de verge, j'ai déjà parlé de ça, par des autorités civiles. 1 fois, lapidé, or... Luc va nous le raconter dans les Actes, hein, près d'Antioche de Pisidie. 3 fois j'ai fait naufrage, Luc va nous a déjà raconté 3 fois la vocation de Paul, il nous raconte qu'une fois le naufrage. Enfin, c'est un naufrage technicolor cinémascope. Hein. Relisez Actes 27-28, vous faites le film, vous avez tous les éléments du scénario. Enfin, Chantal Régnier, dans cette maison, a écrit un livre il y a 2-3 ans au CERF sur... tout ce que ce passage nous apprend sur la navigation dans l'Antiquité. Vous avez tout le vocabulaire des ancres, des troisièmes gréements, des techniques pour ralentir le bateau, pour alléger. Enfin, vous avez un vocabulaire maritime extrêmement détaillé. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme. Bon, alors, on ne sait pas trop l'hypothèse, si vous voulez, d'une sorte de coma ou d'une sorte de moments où il a été tellement assommé, lapidé, qu'il était un peu comme ça pendant un jour et une nuit. Bon. Voyage sans nombre. Rarement resté plus de 2 ans quelque part, quand même, en gros. Donc, si vous voulez, sur de 33 à 58, ça fait quoi? Ça fait 25 ans de course apostolique. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'endroits. Danger des brigands. Bon, ça c'est une pierre dans le jardin de Manuel Valls. Plus 25% cambriolage à Paris l'an dernier. Bon, les Romains disaient, Pompée avait dit, nous avons débarrassé la Méditerranée des pirates. Oui, enfin bon, il en restait encore quelques-uns, et des brigands aussi, il y en avait. Bon, des bandits de grand chemin. Pax Romana, oui, enfin, voilà. Enfin, nous, on connaît Astérix, donc on sait qu'il y avait des bandits qui attaquaient les gens sur les routes. Danger de mes compatriotes. Alors, ici, je pense qu'en grec, c'est syngenes, c'est-à-dire des juifs. Mais, alors, c'est toujours le problème avec les juifs, compatriotes, coreligionnaires. Parfois, à la fin de Romain, c'est traduit mes parents. Alors, en français, ça, c'est vraiment pas bien, parce que mes parents, en français, mes parents, c'est ma famille. Alors, vous direz, le judaïsme, c'est une grande famille. Oui, mais enfin, on passe à côté de la chose. Alors, le problème, c'est que coreligionnaire, en français, ça fait vraiment préhistorique. Compatriote a une dimension quasi exclusivement politique qui est complètement. Qui n'est pas complètement juste. Si vous dites, je crois que je vous ai déjà dit que je n'aime pas beaucoup ça, mais si vous dites de la race, ils sont de ma race, ça ne veut rien dire. Franchement, aujourd'hui, c'est une barbarie. Enfin, bon. Génos n'est pas la race au sens où nous l'entendons depuis 150 ans. Bon, bref, on est embêtés, quoi. Ils sont de ma tribu. Si vous dites tribu, ils ont dit tribu. Bon, voilà, ça ne va pas non plus. Du coup, voilà, c'est l'un des défis fondamentaux qu'on a encore aujourd'hui. Comment parler justement du judaïsme? Si vous dites judaïsme, c'est un isme. Alors, il y avait des christianismes, judaïsme, islamisme, tout ça, c'est la même chose. Soit vous dites Israël, bon, alors on parle l'État d'Israël, l'État hébreu, comme aime bien dire la télé française, l'État hébreu, pourquoi pas, hébreu, très bien. C'est longtemps qu'on n'emploie plus le mot, mais enfin, État juif, ça ne va pas non plus, parce que l'État juif, machin, bon, donc, vous voyez, donc, soit vous rentrez par une piste d'abord politique, soit par une piste d'abord religieuse, et puis c'est ni l'un ni l'autre, c'est une communauté qui est un enfant, tout ensemble une foi, une culture, une langue, une histoire, l'attachement à une terre précise, voilà. Bon. Donc, danger de mes compatriotes, bon, c'est pas les habitants de Tarse dans le contexte, hein. Danger des païens, bon ça on comprend. Danger de la ville, bon qu'on fait l'émeute à Éphèse avec les marchands d'Artémise d'Éphèse. Hein. Danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères. Alors il n'y a ni les juifs ni les païens, il y a les mauvais chrétiens ou les faux frères. Labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité. Dans cette série, vous avez des épreuves imposées, et puis vous avez des épreuves choisies, les jeûnes. Donc ça montre que Paul conserve une religiosité pharisienne juive en tant que chrétien. D'ailleurs, comme les premiers chrétiens. On le sait par l'enseignement des douze apôtres, par la didaché des douze apôtres. Alors après, pour se distinguer, comme vous savez, bon, alors les pharisiens pieux jeûnaient... je ne sais plus, le mardi et le jeudi, alors les chrétiens font mercredi et vendredi, enfin, c'est-à-dire, puisqu'on ne va pas faire le même jour quand même. Donc on varie deux autres jours dans la semaine. Bon. Sans parler du reste, mon obsession quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber qu'un feu ne me brûle? S'il faut se glorifier, c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ, béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, l'ethnarque du roi Arétas, le commandant de la ville pour le compte du roi Arétas, faisait garder la ville des Damascènes pour m'arrêter, c'est par une fenêtre, dans un panier, qu'on me laissa glisser le long de la muraille, et ainsi j'échappais à ses mains. Bon. Alors, Paul n'emploie pas seulement la métaphore de l'amitié ou de l'amour. Il n'hésite pas à employer pour lui-même, et ça... Ça reste quelque chose qui continue à devrait continuer, je pense, à nous surprendre. La métaphore fondamentale de la foi chrétienne, d'ailleurs, est-ce même une métaphore? C'est peut-être plus qu'une métaphore, qui est la paternité. Notre Père, Dieu est Père, Abba. Après tout, des cinq mots araméens qu'on a de Jésus, le plus important, c'est celui-là qu'on a dans Paul, aux Galates et aux Romains. Abba, la façon unique qu'avait Jésus de dire Père. Pas papa, mais Père. Donc, Paul utilise cette métaphore pour décrire la relation apostolique. Alors, 1 Corinthiens 4, 14. Alors, on peut commencer au début du chapitre 4, c'est toujours intéressant. Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ, des intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'en fin de compte on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. L'intendant, l'oikonomos, c'est le personnage clé de la vie économique et sociale de l'époque, c'est le gérant des grandes fermes, c'est celui qui gère les grandes fermes de Galilée dont parle Jésus. Vous savez, il y a l'intendant malhonnête, là, celui qui s'assoit pour... Bon, ce qu'on attend d'un intendant, ben, c'est qu'il soit honnête et fidèle. Et donc, pendant que son maître est à consul, à sénateur à Rome ou pour affaires à Éphèse ou à Antioche, eh bien, gère avec justice la propriété. Pour moi, il ne m'importe peu d'être jugé par vous, par un tribunal humain. D'ailleurs, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Bon, ça aussi, c'est un grand argument, vous savez, dans ce que le grand exégète suédois des années 60, Christer Stendhal, appelait la robuste conscience de Paul. C'est pas vraiment un scrupuleux, Paul. Donc, dans le judaïsme, il disait « je suis irréprochable quant à la loi ». Et puis là, comme apôtre, ma conscience ne me reproche rien. Bon, donc, hein. Mais je ne suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Bon. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur, c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres, rendra manifestes les desseins des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Et la fin n'est pas dite, et la punition qu'il mérite, si c'est un de ces faux, de ces hypocrites. Là, voyez, on est beaucoup dans la dimension éthique. Paul établit sa crédibilité d'intendant, d'apôtre, fidèle, désintéressé, confiant, persévérant, etc. En tout cela, frères, je me suis pris comme exemple, avec Apollos, à cause de vous, pour que vous appreniez en nos personnes à ne pas vous enfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Alors là, c'est assez beau d'ailleurs, parce que Paul se met en tandem avec Apollos, ce fameux apôtre d'origine égyptienne dont nous parlent les Actes des Apôtres, juif versé dans les Écritures, que Paul a rencontré à Corinthe. Ça va, Apollos ou... hein, bon. Et que certains, je vous ai dit la vieille hypothèse allemande du XVIIIe siècle, voient comme l'auteur de la lettre aux Hébreux. Alors, c'est peut-être pas le cas, mais enfin, c'est quelqu'un du genre d'Apollos qui aurait pu écrire la lettre aux Hébreux. Qui donc en effet te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasié, déjà vous êtes enrichi. Sans nous, vous êtes devenu roi. Ah, que ne l'êtes-vous donc roi pour que nous partagions nous aussi votre royauté? Bon, vous faites les fiers, mais il n'y a pas de motif. Car Dieu, ce me semble, nous a, nous les apôtres, exhibés au dernier rang comme des condamnés à mort. Oui, nous avons été livrés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous, nous, à cause du Christ. Mais vous, vous êtes prudents dans le Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, mais nous, dans le mépris. Jusqu'à l'heure présente, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus, maltraités, errants. Nous nous épuisons à travailler de nos mains. On nous insulte et nous bénissons, on nous persécute et nous l'endurons, on nous calomnie et nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde, jusqu'à présent l'universel rebut. Là, il y a des petites allusions un peu au sermon sur la montagne. Il y a débat là-dessus, hein, mais on nous insulte et nous bénissons, on nous persécute, nous l'endurons. Ce n'est pas pour vous confondre, pour vous humilier que j'écris cela. C'est pour vous avertir, comme mes enfants bien-aimés. Auriez-vous en effet 10 000 pédagogues dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré dans le Christ Jésus. Là, quand même, il faut s'arrêter et s'asseoir. Je suis votre père, vous voyez. Vous êtes un peu un pasteur baptiste. Non, non, on peut dire à personne sur terre le mot de père. Là, les catholiques, ils n'ont rien compris, etc. Paul, qu'est-ce qu'il fait? C'est évangélique, ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il va jusqu'à dire... Vous voyez, le pédagogue, à l'époque, c'est l'esclave qui apprend à l'enfant les rudiments de l'éducation. Bon. On peut dire le catéchète. Vous pourriez avoir 10 000 catéchètes, vous n'avez qu'un seul père. Donc... il n'est pas comparable à un simple pédagogue. Il est un père qui engendre. Il a donné la vie qui vient par le Christ. C'est quand même extrêmement fort comme expression. Extrêmement fort. Notez que c'est pas uniquement, là il y a un point assez subtil aussi avec nos frères évangéliques, mais c'est pas uniquement par le baptême. Il l'a bien dit au début de Corinthiens. C'est pas parce qu'il les a baptisés. C'est parce qu'ils sont nés à la foi en l'écoutant. Au début, il a dit, est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous. Ah oui, sauf Crispus et Gaius. Nul ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. Ah si, puis j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre, que je sache. Il y a un petit doute là. Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile. Alors, il ne faut pas prendre ça comme une critique du baptême ou de la théologie du baptême. C'est plutôt la reconnaissance de son charisme. Je crois que j'avais déjà insisté là-dessus. Le charisme de Paul, ce qui l'intéresse, c'est le moment où quelqu'un naît à la foi. Et il a été envoyé pour ce moment-là. Le don qu'il a reçu, c'est pour ça. Alors après, il y a Sosthène, Timothée, ils vont t'expliquer le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 262 à 284, et puis t'expliquer que le credo machin... et puis le chapelet, et puis voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on dit, il faut dire ça, il faut dire ci. Bah, c'est très bien. Et puis à un moment donné, on est baptisé. Paul, il n'a rien contre le baptême. Il a une très belle théologie du baptême en Romains 6, Romains 8. Enfin, son job, sa mission, son charisme, c'est le moment de la naissance de la foi. Alors, on peut quand même être surpris. Est-ce que Paul prend la place de Dieu? Est-ce qu'il se met à la place de Dieu le Père? Je suis votre Père. Alors, on a entendu le verset de Galates 4:10 tout à l'heure. Vous qui avez été connus par Dieu, il sait bien que c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se fait connaître et qui donne sa vie. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il minimise pas son rôle de proclamateur. Tout comme d'ailleurs son rôle de modèle. Parce que, alors c'est là où peut-être quelqu'un peut dire cette affaire de vous n'avez pas plusieurs 10 000 pédagogues, vous n'avez qu'un seul père. Moi, je dis souvent, si tous les chrétiens pouvaient dire le verset 16, ça serait bien. Je vous en prie donc, imitez-moi. Imitez-moi. Soyez mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes règles de conduite dans le Christ, Jésus, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. Donc, à ces enfants-là, il va envoyer un autre fils. Timothée. Donc, pourquoi Paul peut dire de l'imiter? Parce qu'il considère que l'imiter lui, c'est imiter le Christ. C'est ça qui est quand même une affirmation quand même assez carabinée. Pouvoir dire aux autres, imitez-moi, faites comme moi, il faut avoir la conscience robuste, comme dirait Stendhal. Il faut être persuadé d'être un modèle d'imitation. Paul, il n'a pas trop de problèmes là-dessus. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, 1:5, il dit, alors oui, c'est un passage très intéressant, « Notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit-Saint, merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur. Et vous, vous nous avez imités, nous et le Seigneur. » C'est fabuleux, ça. Ça vaut acte 15. L'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé. Concile de Jérusalem, l'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé. Là, vous nous avez imités, nous et le Seigneur. Il peut se mettre en série avec Jésus. Accueillant la parole en pleine détresse avec la joie de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Donc, en imitant Paul et Jésus, évidemment, les Thessaloniciens deviennent un modèle pour tous les croyants de la Grèce. Donc, c'est le modèle. Paul utilise ce schéma de l'éthique antique, qui est celui de l'imitation du maître. Bon, après tout, ça reste le modèle d'éducation fondamental. Il faut que les parents, les instituteurs, les professeurs puissent dire « faites comme moi ». Quand il y a une déconnexion entre ce que disent les parents et ce qu'ils vivent, il y a en général un petit problème éducatif. Donc Paul, n'hésite pas à dire « imitez-moi » et en m'imitant, vous devenez vous-même un modèle, etc. Alors on va faire la pause. Donc on reprend à 10. Voilà. Donc, nous avons vu Paul comme ami, amant, entremetteur, père. Quatre métaphores importantes. Et puis, on l'a vu tout à l'heure en Galates 4, Paul emploie la métaphore de la femme qui souffre dans les douleurs de l'enfantement. Alors c'est un thème biblique, il y a des belles thèses qui ont été faites là-dessus, qui naît dans les prophètes, là, du temps d'Isaïe. Alors c'est assez intéressant, c'est une métaphore qui évolue, qui au départ, vous savez, comme les douleurs tombent sur la femme enceinte, ainsi les guerriers de Babylone tomberont sur vous et vous tremblerez comme des feuilles, etc. Bon, c'est plutôt une image du jugement, de la crise, de la catastrophe. Bon. Et puis, vous arrivez dans l'évangile de Jean, vous avez cette magnifique phrase, vous savez, où Jean dit, voilà la femme qui est passée par les douleurs de l'enfantement, ne se souvient plus de ses douleurs, tout à la joie qu'un être humain soit né dans le monde, etc. Ou il se situe dans l'hypothèse, pas si évidente, que tout s'est bien passé. Faut pas oublier que beaucoup de femmes mouraient en couche, beaucoup d'enfants mouraient. Donc tout ça, c'était quand même un moment de crise extrêmement important. Alors, c'est une image prophétique et apocalyptique parce que elle a deux avantages majeurs, trois même. D'abord, elle transmet l'idée d'un inéluctable que les prophètes régulièrement disent. Donc, on ne sait pas comment ça va finir, mais ça va finir. Quand les douleurs de l'accouchement commencent, alors quand est-ce que l'accouchement va avoir lieu? Alors ça devient de plus en plus du chinois aujourd'hui, parce que les gens... mon accouchement, c'est jeudi à 10h. Bon, jeudi à 10h. Très bien. Mais à l'époque, on ne sait pas trop, quoi. En même temps, c'est parti. Il y a un côté inéluctable, compte à rebours. Donc c'est inéluctable. Vers un moment de crise, au sens de crisis grecque, c'est-à-dire un moment de vie ou de mort. La pile va tomber, ça va tomber à gauche, ça va tomber à droite. L'hypothèse favorable, c'est la mère et l'enfant sont vivants. L'hypothèse demi-favorable, alors ça dépend du point de vue où l'on se place. Si le père est attaché à sa femme, il préfère encore que la femme vive et que l'enfant meure. Et puis vous avez l'autre hypothèse, la femme meurt et l'enfant vit. Et donc, une fois de plus, c'est des hypothèses fréquentes. On le voit par les tombes à Rome ou dans l'Empire. Il y a souvent des tombes avec des épitaphes tout à fait pathétiques d'ailleurs. Donc, l'image, elle est très forte. Elle dit aussi, ça c'est des exégètes féministes qui ont repéré ça dans les années 70, hein, qui ont dit, parce que c'était une image que les exégètes hommes, finalement, lisaient, bon, oui, bon, très bien, l'accouchement, très bien, bon, sans en avoir, disons, une expérience de première main, sans s'y intéresser beaucoup. Alors, c'est elles qui ont fait remarquer, si vous voulez, dans la logique de l'action, de la passivité, de l'activité. Alors la question, est-ce que la femme est active ou passive dans le processus? Un peu des deux, parce qu'elle doit être active, c'est-à-dire qu'elle, bien que quelque chose lui arrive, quelque chose se passe, qu'à ce moment-là, effectivement, elle ne peut plus bloquer, elle collabore, en réalité, activement, elle met sa volonté dans ce qui se passe. Ça, c'est intéressant par rapport... Mettons à la venue du royaume, par exemple. Le royaume, il vient. Bon, mais alors maintenant, on collabore ou on ne collabore pas? On est actif ou on est passif dans le processus? Donc, mes petits enfants, que dans la douleur, j'enfante à nouveau jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Bon, alors, beaucoup de gens disent, c'est n'importe quoi, cette métaphore, parce que, bon, d'abord, on n'enfante pas à nouveau. Hein, quand un bébé est né, il est né, on ne le remet pas dans le ventre, bon. Deuxio, jusqu'à ce que le Christ soit formé. Alors, c'est plus, il est en train de les enfanter, mais c'est le Christ qui est formé. Alors, on comprend plus qui est le bébé, quoi. Bon. C'est des métaphores un peu brisées, si vous voulez. Elles s'enchaînent. Mais il y a une espèce de cohérence, quand même, de fond. Même si il y a quelque chose qui échappe. Alors, des gens se sont demandés, par exemple, mais pourquoi aux Galates, en Galates 4, Paul emploie le terme féminin, hein, prend l'image de la mère, et pas l'image du père qu'on a vu dans Corinthiens. Ce qui pourrait dire exactement la même chose aux Galates. Vous n'avez pas plusieurs pédagogues, vous n'avez qu'un seul père, et c'est moi. Donc ces gens qui viennent, ça marchait très bien. Alors, il semble que c'est pour renforcer le côté pathétique du passage. C'est-à-dire que Paul ne veut pas utiliser un argument d'autorité, parce que le père, le pater familias, le père, c'est aussi celui qui a l'autorité, de vie ou de mort d'ailleurs. La mère, d'abord, elle est plus dans le désintéressement. Ça, on le sait par plein de récits bibliques, c'est-à-dire que la mère, pour son enfant, bon, voilà, l'amour d'une mère, c'est absolu. Deuxièmement, ça dit très bien sa souffrance. Bon, la paternité, c'est une révolution, il y a des bouquins, mais enfin, au niveau souffrance, si vous voulez, c'est contrôlé. Hein? Par contre, l'accouchement, c'est rude. Bon. Donc, c'est une manière de se mettre en jeu aussi dans ce qui se passe, en disant, je souffre pour vous. Ça souligne la relation affective profonde qui l'unit aux Galates, voilà, qui n'ont eu pour lui aucune répulsion alors qu'il était faible comme un enfant malade. Donc au moment où lui était comme un enfant malade, ils ont su l'aimer comme une mère. Une mère n'a pas de dégoût pour son enfant malade, même s'il a plein de boutons partout. De même, aujourd'hui, voilà, des années après, Paul veut les aimer à nouveau comme une mère en les enfantant à nouveau. Donc, voilà, il veut leur redonner la vie du Christ. Abandonner son enseignement, ce serait renier le Christ. Vous avez rompu avec le Christ, si vous placez votre justice dans la loi, vous êtes déchu de la grâce, Galates 5.4. Pour Paul, s'appuyer sur 5.4, s'appuyer sur des assurances rituelles pour son statut devant Dieu, c'est renier le Christ. Donc Paul veut souligner non pas la force de son autorité apostolique, paternelle, comme pour les Corinthiens, mais la force de son amour maternel, amour né dans la douleur, prêt à surmonter toutes les rebuffades, prêt à donner encore la vie, prêt à souffrir pour eux. Alors, ce n'est pas une fois seulement aux Galates, donc dans l'hypothèse chronologique standard vers 53, 54, en tout cas avant Romains. Il utilisait déjà l'image dans la première lettre, 1 Thessaloniciens 2, 7, 9, donc datée de 49-50 en général. On peut reprendre ce qu'il dit. Bon. On peut lire le début du 2 d'ailleurs. Vous savez vous-même, frères, comment nous sommes venus chez vous et que ce ne fut pas en vain. Nous avions, vous le savez, enduré à Philippe des souffrances et des insultes, mais notre Dieu nous a accordé de prêcher en toute hardiesse devant vous l'évangile de Dieu au milieu d'une lutte pénible. Là, on est dans pathos, ethos, logos. Ethos, hein, ethos, c'est-à-dire, voilà, vous savez, j'ai souffert, j'ai fait des insultes, j'ai été constant, j'ai prêché au milieu d'une lutte pénible. Bon, en vous exhortant, nous ne nous inspirons ni de l'erreur ni de l'impureté, nous ne tentons pas de ruser avec vous, nous ne sommes pas des sophistes. Seulement, Dieu nous ayant confié l'évangile après nous avoir éprouvés, nous prêchons en conséquence, cherchant à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Évidemment, c'est le paradoxe fondamental de l'apôtre qu'on voit dans les lettres de Paul. D'un certain côté, l'apôtre met en œuvre toutes ses ressources de conviction, tous ses talents, toute son intelligence, toute sa connaissance de l'Écriture, pour convaincre. Il cherche aussi à avoir une ethos juste, à être estimé, loué, apprécié comme un homme de valeur, de poids. Mais ce n'est pas son objectif, et il ne s'appuie pas là-dessus. Jamais non plus nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez, ni une arrière-pensée de cupidité, Dieu en est témoin, grand argument paulinien par excellence, ni rechercher la gloire humaine, pas plus chez vous que chez d'autres. Alors que nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre poids. Tout ouvrier mérite son salaire, je suis apôtre comme les autres, donc j'aurais pu me prévaloir de ce droit. Au contraire, alors c'est là où j'en viens à mon affaire, à ma métaphore, nous nous sommes faits tout aimables au milieu de vous. Comme une mère nourrit ses enfants, réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit, littéralement. Nous avions pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais même notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Si ce n'est pas du pathos, hein, je ne m'y connais pas. Donc, voilà, nous aurions pu nous imposer, en qualité d'apôtre du Christ, comme un père qui dit à son fils « va, il va, viens, il vient, fais ceci, il fait cela ». Bon, un père qui a autorité de père. Non, nous avons été comme une mère. La mère étant ici du côté du pôle de la douceur et qui n'utilise pas les arguments d'autorité. Et puis, vous notez l'insistance sur l'affection qui fait que il met sa propre vie dans la balance avec l'Évangile. Donc ça, ça dit beaucoup de choses, si vous voulez, sur le cœur pastoral de Paul. Et sur le fait que... alors, il y a un auteur récent qui dit, dans le débat sur la potestas et la auctoritas chez les Romains. La potestas, le pouvoir que vous avez à partir de votre charge, et la auctoritas, l'autorité que vous exercez en fonction de votre ethos, de votre caractère. En disant que c'est très important chez les Grecs et les Romains, moi je dirais que c'est un élément de l'humanité fondamentale. Donc si vous voulez, un évêque est nommé quelque part, il a la potestas. Le lendemain, il peut virer le vicaire général, arriver dans une paroisse, dire écoutez les amis, maintenant on va chanter en latin, etc. Il peut faire tout ça, il a la potestas. Mais il n'a pas encore la auctoritas, les gens ne le connaissent pas. Il n'est pas encore respecté, aimé pour lui. Il a la potestas, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vrai pour un maire, pour un préfet, pour un général, pour le gars qui, le capitaine qui est à Bangui là, avec ses hommes, ou le colonel Puga quand il saute sur Colvézi en 78. Bon, je veux dire là, les mecs, vous ne suivez pas votre colonel, vous suivez le colonel Truc, parce que vous avez confiance dans le colonel Truc. Ça, c'est là l'exousia, c'est là l'auctoritas qui est personnelle, qui ne dépend pas de votre titre. Alors pour ça, je ne sais pas si vous êtes au courant de la belle lettre que le pape François a écrite aux fidèles du diocèse perdu au fin fond de la Calabre de 113 000 habitants 425, dans lequel il a pris l'évêque là, pour le faire secrétaire général de la conférence des évêques italiens, la CEI. Vous êtes au courant de cette lettre? C'est une lettre qu'il a écrite mi-décembre, fabuleuse. Il s'excuse, il demande pardon. Et le pape, il écrit à chaque fidèle pour dire, bah, il a la potestas le pape. S'il a envie de nommer Monseigneur 23 en Patagonie, il l'envoie en Patagonie. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Bon, donc là, c'est un évêque du Nord, d'ailleurs, qui a été nommé il y a 5-6 ans dans cet endroit-là. Il y a eu un tremblement de terre entre-temps. Alors, c'est une sorte de petit François qui vit avec les séminaristes. Il s'est débarrassé de la maison épiscopale, il a fait le tour de toutes les paroisses, donc tout le monde l'adore dans le coin. Et donc, le pape le sait, donc il dit aux gens, écoutez, je sais que vous l'aimez beaucoup, votre évêque, je suis vraiment embêté, mais j'ai vraiment besoin de lui pour ce job. Mais je vous promets, il va revenir souvent, etc. Voilà, je m'excuse, etc. Bon. Alors, moi je trouve ça assez sympa en même temps, parce qu'on peut dire, attends, il a la potestas, il en fait ce qu'il veut. Bon. En même temps, il reconnaît que, ben voilà. D'où, vous savez, le débat que certains ont de nouveau depuis un an pour dire, bon, cette affaire, cette manie catholique de muter les évêques régulièrement, après Poitiers, vous arrivez à Lyon, après Lyon, machin, et puis hop, vous finissez à Paris, c'est une espèce de... normalement, comme chez les orthodoxes, vous êtes marié à votre diocèse, vous êtes évêque de trucs, ben vous restez 30 ans évêque de trucs. Et vous, si vous êtes à Rodez, vous restez à Rodez. Voilà. Donc au moins, les choses sont claires. Et puis, si vous êtes nommé à Paris, vous êtes à Paris. Bon. Évidemment, quand quelqu'un gaffe beaucoup, c'est plus gênant parce que c'est plus difficile à faire sauter. Mais enfin, l'idée, c'est quand même que se crée une relation personnelle apostolique. Dans l'Église catholique, on est beaucoup quand même dans la potestas. Curé, la potestas. Mais j'ai le droit de faire ça. Oui, vous avez le droit. Le curé a le droit, l'évêque il a le droit. Je vire le père machin, je le mets à l'autre bout du diocèse. C'est toujours possible. Le problème, c'est qu'il faut que votre ethos, vous soyez crédible pour faire comprendre aux gens non, mais c'est vraiment pour son bien, pour votre bien, etc. etc. Ben, il y a des gens, on va les croire, et puis d'autres, il va y avoir un doute. Parce que ils n'ont pas établi leur crédibilité apostolique. Donc le cœur d'un pasteur. Du coup, Paul compare ses souffrances apostoliques, alors aux souffrances du Christ, évidemment, à la croix. Il est crucifié lui aussi, en un certain sens, et c'est ce qui fonde son espérance, puisqu'étant crucifié ou souffrant comme le Christ, il peut espérer participer à sa gloire et à sa résurrection. Nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, 16. Enfant et donc héritier, héritier de Dieu, co-héritier du Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Elles sont comparables aux souffrances du Christ. 2 Corinthiens 1,5. De même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous en difficulté? C'est pour votre consolation, pour votre salut. Sommes-nous consolés? C'est aussi pour votre consolation qui vous fait supporter les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Ce n'est pas du masochisme, vous souffrez, je souffre, tout va bien, mais c'est un raisonnement d'identification au Christ dans son chemin, qui fait que s'il y a le passage par les souffrances, il y aura le passage par la gloire. Il y a un très beau passage dans le Talmud de Babylone, là-dessus, vous savez, avec Rabbi Akiba, le grand Rabbi Akiba, Akiba Ben Yosef, vous voyez qui c'est Akiba ? Akiba, c'est le rabbin qui a été martyrisé par les Romains en 132. C'est l'un des grands Tanaïm, comme on dit, l'un des grands rabbins du début du IIe siècle, un des quatre grands, et dont le récit de martyr est le récit archétypique dans le judaïsme du martyr par excellence. Akiba est un des, bon, d'après un grand théologien juif du XXe siècle, Heschel, Abraham Yoshua Heschel, Akiba est l'un des deux grands vraiment maîtres rabbins du Talmud. C'est vraiment quelqu'un de très très important. Et il y a une scène où, on est après 70, donc Akiba et deux rabbins marchent sur le lieu de la destruction, marchent sur le lieu du temple à Jérusalem. On est avant 132, donc il est encore possible aux Juifs d'entrer dans les ruines, dans la ville. Et à un moment donné, ils voient un renard sortir d'un terrier qui est là dans les ruines. Bon. Et les autres rabbins pleurent de tristesse devant cette vision. Et puis Akiba rit, joie, chante. Les deux rabbins le regardent en disant « Akiba, Akiba, tu es devenu fou ?» Il dit non. Les prophètes avaient annoncé la destruction du temple. Il est détruit. Donc, les promesses de restauration s'accompliront. Donc, je suis très content de voir ça. Je suis consolé parce que ça veut dire que les promesses de Dieu s'accompliront. Donc c'est un peu analogiquement le raisonnement de Paul ici. Hein. En participant aux souffrances du Christ, j'ai l'assurance, plus que si tout allait bien pour moi, de participer à sa résurrection. C'est une espèce de garantie d'authenticité apostolique. Et Paul dit qu'il souffre pour ses communautés, pour ses frères, pour ses enfants. Vous voyez que ses enfants sont aussi ses frères, à un certain niveau. Ce n'est pas incompatible. Voilà, nous ne voulons pas, frères, vous le laisser ignorer, je vous avais cité tout à l'heure, 2 Corinthiens 1,8, hein, le péril que nous avons couru en Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. C'est Dieu qui nous a arrachés à une telle mort, il nous en arrachera encore, en lui nous avons mis notre espérance, il nous en arrachera encore. Vous y coopérez, vous aussi, par votre prière pour nous. Alors, de ce point de vue-là, la fameuse phrase de la lettre aux Colossiens exprime, bien qu'elle ne soit sans doute pas de Paul, mais elle exprime bien la vision pastorale, théologique de Paul. Hein. « Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que je souffre pour vous, et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. Hein. » Colossiens 1, 24, vous connaissez ce passage. Donc toutes les fois que Paul cite les marques, les stigmates de son corps, eh bien, ce sont les marques de son ministère. Quelque part, ça authentifie son ministère apostolique. Donc ce n'est pas pour rien, par orgueil, qu'il fait la liste de ce qu'il a physiquement enduré. Cela montre qu'il est un apôtre authentique. Fin de Galates. Des gens désireux de se faire remarquer dans l'ordre de la chair, voilà ceux qui veulent vous imposer la circoncision. Leur seul but est de ne pas être persécutés à cause de la croix. Là, il fait une accusation, un argument logique, théologique. Il dit, vis-à-vis des communautés juives, en insistant sur la pratique des commandements rituels, ils évitent la persécution, ils évitent les problèmes. Mais ce n'est pas mon cas. Moi, je n'ai pas peur de ça. Pour le reste, que personne ne me suscite d'ennui, hein, je porte dans mon corps ta stigmata tu Jesu, hein, les stigmates, les marques de Jésus. Galates 6, 17. Voilà. Mes adversaires, non seulement ils ne sont pas persécutés, mais ils agissent en vue d'échapper à la persécution. Quelque part, on pourrait dire, ils veulent échapper à la croix. Eh bien, ils auront la croix quand même, et ils n'auront pas la résurrection. Voilà. Et moi, j'affronte les souffrances, j'affronte la croix, pour être associé à la résurrection. Donc le corps de Paul parle pour lui. Le corps de Paul devient un argument, devient une preuve. Vous voulez mon diplôme d'apôtre ? Ben regardez-moi. Bon, c'est un argument qui n'est pas sans valeur. Il n'est pas sans valeur humainement. Est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner ? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes ? Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Sachez-le, mes frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas à mesure humaine, ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1:10. Donc, pour conclure ce point, Paul a noué avec ses communautés un lien affectif extrêmement puissant, et il a utilisé toutes les métaphores que sa culture lui mettait à disposition, voire le symbole fondamental de sa foi, la paternité de Dieu. Il a mis toutes ces images et métaphores au service de la relation qu'il avait avec ses communautés. Donc ce lien affectif puissant pouvait être comparé à celui d'un ami fidèle, d'un amant, d'un marieur, d'un père, d'une mère. La position unique de celui qui a tout risqué pour annoncer la foi justifie qu'il intervienne, qu'il se donne du mal pour que ces communautés entrent en contact. Alors, il me reste à évoquer un point absolument capital, qui est le formidable réseau de collaborateurs de Paul. Je pense d'ailleurs qu'en partie dans l'animation de ce réseau, Paul fait part d'une qualité qui n'est pas assez présente dans l'Église catholique. J'avais animé une retraite de prêtres il y a 7-8 ans dans un diocèse là-dessus, j'avais beaucoup insisté là-dessus, et ça en avait frappé pas mal. C'est-à-dire, l'association qu'il fait à son ministère de ses collaborateurs. Ils ne sont pas seulement des messagers, des petits télégraphistes qui transmettent les ordres de Paul. Alors, il y a un mot anglais qu'on n'a pas en français, c'est bien dommage, qui est « empower ». Il les capacite, il les met en capacité d'eux, il les met en responsabilité d'eux, il fait leur éloge, il les valorise, il leur donne des missions semblables à la sienne. Donc ça donne quoi, par exemple? Ça donne à la fin de la première aux Corinthiens. Bon. J'irai chez vous, blablabla, je ne peux pas vous voir en passant, j'espère bien rester quelque temps chez vous. Bon. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte au milieu de vous. Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne ne le méprise. Acheminez-le en paix pour qu'il vienne me rejoindre. Je l'attends avec les frères. Bon, quant à notre frère Apollos, je l'ai vivement exhorté à aller chez vous avec les frères, mais il ne veut pas. Bon. Il ira lorsqu'il trouvera le temps. Bon. Apollos, c'est son problème. Bon, très bien. Encore une recommandation, frère. Vous savez que Stéphanas et les siens sont les prémices de l'Achaïe. Bon, expression liturgique, religieuse, sacerdotale, pour dire parmi les premiers chrétiens de la province, prémices, et qu'ils se sont rangés d'eux-mêmes au service des saints. À votre tour, rangez-vous sous de tels hommes. Obéissez-leur. Et sous quiconque travaille et peine avec eux. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, qui ont supplé à votre absence. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Prisca vous saluent dans le Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit chez eux. Tous les frères vous saluent. Dernier verset quand même, je vous aime tous dans le Christ Jésus. Bon, c'est pathétique, tout à fait. Mais là où c'est le plus net, c'est 2 Corinthiens 8, qui est un chapitre absolument magnifique, qui n'est pas très connu, parce qu'on ne le lit pas beaucoup le dimanche. Sur la collecte, la fameuse collecte. Bon, verset 6, nous avons prié Tite de mener à bonne fin chez vous cette libéralité comme il avait commencé. Bon, là, jusque-là, ça veut dire, bon, Tite, je lui ai donné ce travail. Mais... Verset 16, grâce soit à Dieu qui met au cœur de Tite le même empressement pour vous. Il a répondu à notre appel. Plus empressé que jamais, c'est spontanément qu'il se rend chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge au sujet de l'Évangile. Ce n'est pas tout. Il a encore été désigné par le suffrage des églises comme notre compagnon de voyage dans cette générosité dont le service est assuré par nous pour la gloire du Seigneur lui-même et pour notre propre satisfaction. C'est une expression assez incroyable. Bon, Paul est très très fier de cette collecte, j'en reparlerai dans la dernière sainte. Par là, nous voulons éviter qu'on aille nous décrier pour cette forte somme dont le service est assuré par nous. Bon. Verset 22. Avec eux, nous envoyons aussi celui de nos frères dont nous avons éprouvé l'empressement de maintes manières et en maintes circonstances, et qui maintenant est beaucoup plus empressé en raison de la grande confiance qu'il a en vous. Pour ce qui est de Tite, c'est mon associé et collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ce sont les envoyés des églises, la gloire du Christ. C'est très fort comme formule. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et du bien fondé de notre fierté à votre égard. Donc, Paul valorise et met en valeur les jeunes de la génération suivante, ceux qui ont 20 ans de moins que lui et qui sont devenus croyants grâce à lui, Tite, Timothée, Caïcus, Aristarque, Gaius, Stéphanas, Sosthène, enfin toute la bande. Lisez le livre de Marie-Françoise Basselès. Voilà, il leur donne des responsabilités, il les associe à son ministère, il leur donne des missions de confiance, il fait leur éloge. Philippiens 2, 25. Épaphrodite. On n'est pas très intime avec Épaphrodite. Voilà ce que dit Paul. Épaphrodite, ce frère qui m'est un compagnon de travail et de combat, à peu près la même chose. Je m'empresse de vous le renvoyer, afin que sa vue vous remette en joie, et que j'aie moi-même moins de peine. Accueillez-le donc dans le Seigneur en toute joie. Tenez en grande estime des gens tels que lui. C'est pour l'œuvre du Christ qu'il a failli mourir. Donc, c'est quelqu'un qui a échappé de peu à la mort pour le Christ, au martyr, et Paul le valorise. À Philémon aussi, il associe à la fin, alors que ce n'était pas vraiment nécessaire, vu la nature de la lettre, ses proches dans le ministère. Tu as les salutations d'Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, ainsi que de Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Donc, cette insistance sur l'animation d'un réseau et le fait que Paul donne à ce réseau des responsabilités, presque comme une délégation de sa charge apostolique. Il les transforme eux-mêmes en apôtres, finalement. Voilà, j'ai fini, et puis d'une part, je me sens vraiment pas bien, comme vous pouvez vous en rendre compte, donc je crois que je vais arrêter et essayer de rentrer chez moi à peu près sur deux jambes, et je vous dis rendez-vous dans 15 jours.